Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 2, chapitre 9. Première thèse, le vieil homme et la grâce, visite des couvents, Dresde, Erfurt, Tornator, la paix et la croix. Résultat du voyage, travaux, peste. L'enseignement de Luther portait des fruits. Plusieurs de ses disciples se sentaient déjà poussés à professer publiquement les vérités que les leçons de leur maître leur avaient révélées. Parmi ses auditeurs se trouvait un jeune savant, Bernard de Feldkirchen, professeur de la physique d'Aristote à l'université et qui, 5 ans plus tard, fut le premier des ecclésiastiques évangéliques qui entra dans les liens du mariage. Luther désira que Feldkirchen soutînt, sous sa présidence, des thèses dans lesquelles ses principes étaient exposés. Les doctrines professées par Luther acquéraient ainsi une publicité nouvelle. La dispute eut lieu en 1516. C'est ici la première attaque de Luther contre le règne des sophistes et contre la papauté, comme il s'exprime lui-même. Quelque faible qu'elle fût, elle lui causa plus d'une inquiétude. « Je permets qu'on imprime ces propositions, dit-il bien des années après, en les publiant dans ses œuvres, principalement afin que la grandeur de ma cause et le succès dont Dieu l'a couronnée ne m'élèvent pas, car elles manifestent pleinement mon ignominie, c'est-à-dire l'infirmité et l'ignorance, la crainte et le tremblement avec lesquels je commençais cette lutte. J'étais seul. Je m'étais jeté imprudemment dans cette affaire. Ne pouvant reculer, j'accordais au pape plusieurs points importants, et même je l'adorais. Voici quelques-unes de ses propositions. Le vieil homme est la vanité des vanités. Il est l'universelle vanité, et il rend vaines les autres créatures, quelque bonnes qu'elles soient. Le vieil homme est appelé la chair, non pas seulement parce qu'il est conduit par la convoitise des sens, mais encore parce que, quand même il serait chaste, prudent et juste, il n'est pas né de nouveau, de Dieu, par l'Esprit. Un homme qui est en dehors de la grâce de Dieu ne peut observer le commandement de Dieu, ni se préparer en tout ou en partie à recevoir la grâce, mais il reste nécessairement sous le péché. La volonté de l'homme sans la grâce n'est pas libre, mais elle est esclave, et elle l'est de son propre gré. Jésus-Christ, notre force, notre justice, celui qui sonde les cœurs et les reins, est seul scrutateur et juge de nos mérites. Puisque tout est possible par Christ à celui qui croit, il est superstitieux de chercher d'autres secours, soit dans la volonté humaine, soit dans les saints. Cette dispute fit grand bruit et on la considérait comme le commencement de la réformation. Le moment approchait où cette réformation allait éclater. Dieu se hâtait de préparer l'instrument dont il voulait se servir. L'électeur, ayant bâti à Wittenberg une nouvelle église, à laquelle il donna le nom d'église de tous les saints, envoya Staupitz dans les Pays-Bas pour y recueillir les reliques dont il voulait orner le nouveau temple. Le vicaire général chargea Luther de le remplacer durant son absence, et en particulier de faire la visite de 40 monastères de la Misny et de la Thuringe. Luther se rendit d'abord à Grima et de là à Dresde. Partout, il s'efforçait d'établir les vérités qu'il avait reconnues et d'éclairer les membres de son ordre. « Ne vous attachez pas à Aristote ou à d'autres docteurs d'une philosophie trompeuse, disait-il aux moines, mais lisez assidûment la parole de Dieu. Ne cherchez pas votre salut dans vos forces et vos bonnes œuvres, mais dans les mérites de Christ et dans la grâce divine. » Un moine augustin de Dresde s'était enfui de son couvent et se trouvait à Mayence où le prieur des Augustins l'avait reçu. Luther écrivit à ce prieur pour lui redemander cette brebis perdue, et il ajouta ces paroles pleines de vérité et de charité. « Je sais qu'il est nécessaire que des scandales arrivent. Ce n'est pas un miracle que l'homme tombe, mais c'en est un que l'homme se relève et se tienne debout. Pierre tomba afin qu'il sût qu'il était homme. On voit aujourd'hui encore tomber les cèdres du Liban. » Les anges même, ceux qui surpassent toute imagination, sont tombés dans le ciel, et Adam dans le paradis. Pourquoi donc s'étonner si un roseau est agité par le tourbillon et si un lumignon fumant vient à s'éteindre ? De Dresde, Luther se rendit à Erfurt et reparut pour remplir les fonctions de vicaire général dans ce même couvent où, 11 ans auparavant, il avait remonté l'horloge, ouvert la porte et balayé l'église. Il établit prieur du couvent son ami le bachelier Jean Lange, homme savant et pieux mais sévère. Il l'exhorta à l'affabilité et à la patience. Revêtez, lui écrivit-il peu après, un esprit de douceur envers le prieur de Nuremberg. Cela est convenable puisque le prieur a revêtu un esprit âpre et amer. L'amertume ne se chasse pas par l'amertume, c'est-à-dire le diable par le diable, mais le doux dissipe l'amer, c'est-à-dire le doigt de Dieu chasse les démons. Il faut peut-être regretter que Luther ne se soit pas souvenu en diverses occasions de cet excellent conseil. À Neustadt, sur Orla, il n'y avait que division. Les troubles et les querelles régnaient dans le couvent. Tous les moines étaient en guerre avec leurs prieurs. Ils assaillirent Luther de leurs plaintes. Le prieur, Michel Dressel, ou Tornator, comme l'appelait Luther, en traduisant son nom à latin, exposa de son côté au docteur toutes ses angoisses. « La paix, la paix !» disait-il. « Vous cherchez la paix, » répondit Luther, « mais vous cherchez la paix du monde et non celle de Christ. Ne savez-vous donc pas que notre Dieu a placé sa paix au milieu de la guerre ? Il n'a pas la paix celui que personne ne trouble, mais celui qui, troublé par tous les hommes et par toutes les choses de la vie, supporte tout tranquillement et avec joie, celui-là possède la paix véritable. Vous dites avec Israël « la paix, la paix !» et il n'y a point de paix. Dites plutôt avec Christ « la croix, la croix !» et il n'y aura point de croix, car la croix cesse d'être croix dès qu'on dit avec amour « ô croix bénie, il n'est point de bois semblable au tien !» Revenu à Wittenberg, Luther, voulant mettre fin à ses divisions, permit aux moines d'élire notre prieur. Luther fut de retour à Wittenberg après une absence de 6 semaines. Il était attristé de tout ce qu'il avait vu, mais ce voyage lui fit mieux connaître l'Église et le monde, lui donna plus d'assurance dans ses rapports avec les hommes et lui offrit de nombreuses occasions de fonder des écoles, de presser cette vérité fondamentale que l'Écriture sainte seule nous montre le chemin du ciel et d'exhorter les frères à vivre ensemble, saintement, chastement et pacifiquement. Nul doute qu'une abondante semence fut répandue dans les divers couvents augustins pendant ce voyage du réformateur. Les ordres monastiques, qui avaient été longtemps l'appui de Rome, firent peut-être plus pour la réformation que contre elle. Cela est vrai surtout de l'ordre des augustins. Presque tous les hommes pieux, d'un esprit libre et élevé qui se trouvaient dans les cloîtres, se tournèrent vers l'Évangile. Un sang nouveau et généreux circula bientôt dans les ordres, qui étaient comme les artères de la catholicité allemande. On ne savait rien dans le monde des nouvelles idées de l'Augustin de Wittenberg que déjà elles étaient le grand sujet de conversation des chapitres et des monastères. Plus d'un cloître fut ainsi une pépinière de réformateurs. Au moment où les grands coups furent portés, des hommes pieux et forts sortirent de leur obscurité et abandonnèrent la retraite de la vie monacale pour la carrière active de ministre de la parole de Dieu. Déjà dans cette inspection de 1516, Luther réveilla par ses paroles bien des esprits endormis. Aussi a-t-on nommé cette année l'étoile du matin du jour évangélique. Luther se remit à ses occupations ordinaires. Il était à cette époque accablé de travail. Ce n'était point assez qu'il fût professeur, prédicateur, confesseur. Il était encore chargé d'un grand nombre d'occupations temporelles se rapportant à son ordre et à son couvent. « J'ai besoin presque continuellement, écrivait-il, de 2 secrétaires, car je ne fais presque autre chose tout le jour qu'écrire des lettres. Je suis prédicateur du couvent, orateur de la table, pasteur et prédicateur de la paroisse, directeur des études, vicaire du prieur, c'est-à-dire 11 fois prieur, inspecteur des étangs de Lidskow, avocat des auberges de Herzberg à Torgau, lecteur de Saint-Paul, commentateur des psaumes, j'ai rarement le temps de lire mes heures et de chanter, sans parler du combat avec la chair et le sang, avec le diable et le monde. Apprends par là quel homme oisif je suis. » Vers ce temps, la peste se déclara à Wittenberg. Une grande partie des étudiants et des docteurs quittèrent la ville. Luther resta. « Je ne sais trop, écrivait-il à son ami d'Erfurt, si la peste me permettra de finir l'épître aux Galates. Prompte et brusque, elle fait de grands ravages, surtout parmi la jeunesse. Vous me conseillez de fuir. Où fuirai-je? J'espère que le monde ne s'écroulera pas si le frère Martin tombe. Si la peste fait des progrès, je disperserai les frères de tous côtés. Mais moi, je suis placé ici. l'obéissance ne me permet pas de fuir jusqu'à ce que celui qui m'a appelé me rappelle. Non que je ne craigne pas la mort, car je ne suis pas l'apôtre Paul, je suis seulement son commentateur. Mais j'espère que le Seigneur me délivrera de la crainte. Telle était la fermeté du docteur de Wittenberg, celui que la peste ne pouvait faire reculer d'un pas. Reculera-t-il devant Rome? Cédera-t-il devant la crainte de l'échafaud? Livre 2, chapitre 10. Rapport de Luther avec l'électeur. Conseil au chapelain. Le duc Georges. Son caractère. Luther devant la cour. Le dîner à la cour. La soirée chez Emser. Le même courage que Luther montrait en présence des maux les plus redoutables, il le déployait devant les puissants du monde. L'électeur était très content du vicaire général. Celui-ci avait fait dans les Pays-Bas une bonne récolte de reliques. Luther en rend compte à Spalatin. « C'est une chose singulière que cette affaire de reliques qui se traite au moment où la réformation va commencer. Certes, les réformateurs savaient peu où ils en devaient venir. Un évêché semblait à l'électeur être seul une récompense digne du vicaire général. Luther, à qui Spalatin en écrivit, désapprouva fort cette idée. « Il y a bien des choses qui plaisent à votre prince et qui pourtant déplaisent à Dieu. Je ne nie pas qu'il ne soit habile dans les choses du monde, mais en ce qui concerne Dieu et le salut des âmes, je le regarde comme cette fois aveugle, ainsi que Pfeffinger son conseiller. Je ne dis pas cela par derrière, comme un calomniateur. Ne leur cachez pas, car je suis prêt moi-même et en toute occasion à le dire en face à l'un et à l'autre. » « Pourquoi voulez-vous, continue-t-il, entourer cet homme, Staupitz, de tous les tourbillons et de toutes les tempêtes des soucis épiscopaux ?» L'électeur ne prenait pas en mauvaise part la franchise de Luther. « Le prince, lui écrivait Spalatin, parle souvent de vous et avec beaucoup d'honneur. » Frédéric envoya au moine de quoi se faire un froc de très beaux draps. « Il serait trop beau, dit Luther, si ce n'était pas un don de prince. Je ne suis pas digne qu'aucun homme se souvienne de moi. » Bien moins encore un prince et un si grand prince. Ceux qui me sont le plus utiles sont ceux qui pensent le plus mal de moi. Rendez grâce à notre prince de sa faveur, mais sachez que je ne désire n'être loué ni de vous, ni d'aucun homme. Toute louange d'homme est en vaine, et la louange qui vient de Dieu est en seule vraie. L'excellent chapelain ne voulait pas se borner à ses fonctions de cour. Il désirait se rendre utile au peuple, mais comme plusieurs dans tous les temps, il voulait le faire sans blesser les esprits, sans irriter personne, en se conciliant la faveur générale. « Indiquez-moi, écrivait-il à Luther, quelque écrit à traduire en langue vulgaire, mais un écrit qui plaise généralement et qui en même temps soit utile. »« Agréable et utile, répondit Luther, cette demande surpasse mes forces. Plus les choses sont bonnes, moins elles plaisent. Qu'y a-t-il de plus salutaire que Jésus-Christ? Et pourtant il est pour la plupart une odeur de mort. » Vous me direz que vous ne voulez être utile qu'à ceux qui aiment ce qui est bon. Alors, faites seulement entendre la voix de Jésus-Christ. Vous serez agréable et utile, n'en doutez pas, mais au très petit nombre, car les brebis sont rares dans cette région de loups. Luther recommanda cependant à son ami les sermons du dominicain Toller. « Je n'ai jamais vu, dit-il, ni en latin ni dans notre langue, une théologie plus saine et plus conforme à l'Évangile. » Goûtez donc et voyez combien le Seigneur est doux, mais lorsque vous aurez d'abord goûté et vu combien est amer tout ce que nous sommes. » Ce fut dans le courant de l'année 1517 que Luther entra en rapport avec le duc Georges de Saxe. La maison de Saxe avait alors deux chefs. Deux princes, Ernest et Albert, enlevés dans leur jeunesse du château d'Altenburg par Kunz et Kufungen, étaient devenus par le traité de Leipzig les fondateurs des deux maisons qui portent encore leur nom. L'électeur Frédéric, fils d'Ernest, était à l'époque dont nous écrivons l'histoire, le chef de la branche ernestine, et son cousin, le duc Georges, était celui de la branche albertine. Dresde et Leipzig se trouvaient dans les états du duc, et il résidait dans la première de ces villes. Sa mère, Sidonia, était fille du roi de Bohême, Georges Podiebrad. La longue lutte que la Bohème avait soutenue avec Rome depuis les temps de Jean Hus avait eu quelque influence sur le prince de Saxe. Il s'était montré souvent désireux d'une réformation. « Il l'a sucé au sein de sa mère, disait-on. Il est de sa nature ennemi du clergé. » Il tourmentait de plusieurs manières les évêques, les abbés, les chanoines et les moines, et son cousin, l'électeur Frédéric, dut plus d'une fois intervenir en leur faveur. Il semblait que le duc Georges dut être le plus chaud partisan d'une réformation. Le dévot Frédéric, au contraire, qui avait naguère revêtu dans le Saint-Sépulcre les éperons de Godefroy, qui avait ceint la grande et pesante épée du conquérant de Jérusalem et prêté le serment de combattre pour l'Église, comme autrefois le preux chevalier, paraissait devoir être le plus ardent champion de Rome. Mais quand il s'agit de l'Évangile, toutes les prévisions de la sagesse humaine sont souvent trompées. Le contraire de ce qu'on devait supposer arriva. Le duc eut pris plaisir à humilier l'Église et les gens d'Église, à abaisser des évêques dont le train de prince surpassait de beaucoup le sien, mais recevoir dans son cœur la doctrine évangélique qui devait l'humilier, se reconnaître pécheur, coupable, incapable d'être sauvé si ce n'est par grâce, c'était tout autre chose. Il eût volontiers réformé les autres, mais il ne se souciait point de se réformer lui-même. Il eût peut-être mis la main à l'œuvre pour obliger l'évêque de Mayence à se contenter d'un seul évêché et n'avoir que 14 chevaux dans ses écuries, comme il le dit plus d'une fois. Mais quand il vit un autre que lui, paraître comme réformateur, quand il vit un simple moine entreprendre cette œuvre et la réformation gagner de nombreux partisans parmi les gens du peuple, l'orgueilleux petit-fils du roi Hussite devint le plus violent adversaire de la réforme dont il s'était montré partisan. Au mois de juillet 1517, le duc Georges demanda à Staupitz de lui envoyer un prédicateur savant et éloquent. Celui-ci envoya Luther, le recommandant comme un homme d'une grande science et d'une conduite irréprochable. Le prince l'invita à prêcher à Dresde, dans la chapelle du château, le jour de Jacques le Majeur. Ce jour arrivé, le duc et sa cour se rendirent à la chapelle pour entendre le prédicateur de Wittenberg. Luther saisissait avec joie l'occasion de rendre témoignage à la vérité devant une telle assemblée. Il prit pour texte l'évangile du jour. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils, etc. Évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 23. Il prêcha sur les désirs et les prières insensées des hommes, puis il parla avec force de l'assurance du salut. Il la fit reposer sur ce fondement que ceux qui entendent la parole de Dieu avec foi sont les vrais disciples de Jésus-Christ, élus pour la vie éternelle. Ensuite, il traita de l'élection gratuite. Il montra que cette doctrine, si on la présente dans son union avec l'œuvre de Christ, a une grande force pour dissiper les terreurs de la conscience, en sorte que les hommes, au lieu de s'enfuir loin du Dieu saint, à la vue de leur indignité, sont amenés avec douceur à chercher en lui leur refuge. Enfin, il raconta une parabole de trois vierges, dont il tira d'édifiantes instructions. La parole de la vérité fit une impression profonde sur les auditeurs. Deux d'entre eux surtout paraissaient faire une attention particulière au discours du moine de Wittenberg. C'était d'abord une dame d'un extérieur respectable qui se trouvait dans les bancs de la cour et sur les traits de laquelle on eût pu lire une émotion profonde. Elle se nommait Madame de la Salle et était grande maîtresse de la duchesse. C'était ensuite un licencié en droit canon, secrétaire et conseiller du duc, Jérôme Emser. Emser était doué de talents et de connaissances étendues. Homme de cour, politique habile, il eût voulu contenter à la fois les deux partis opposés, passer à Rome pour défenseur de la papauté et en même temps briller en Allemagne parmi les savants du siècle. Mais sous cet esprit flexible se cachait un caractère violent. Ce fut dans la chapelle du château de Dresde que se rencontrèrent pour la première fois Luther et Emser qui, plus tard, devaient rompre plus d'une lance. L'heure du dîner sonna pour les habitants du château. Et bientôt la famille ducale et les personnes attachées à la cour furent réunies à table. La conversation tomba naturellement sur le prédicateur du matin. « Comment le sermon vous a-t-il plu ? » dit le duc à Madame de la Salle. « Si je pouvais entendre encore un tel discours, » répondit-elle, « je mourrais en paix. »« Et moi, » répondit Georges avec colère, « je donnerais beaucoup d'argent pour ne l'avoir pas entendu, car de tels discours ne sont bons qu'à faire pécher les gens avec assurance. » Le maître ayant ainsi fait connaître son opinion, les courtisans se livrèrent sans gêne à leur mécontentement. Chacun avait sa remarque toute prête. Quelques-uns prétendirent que, dans sa parabole des trois vierges, Luther avait eu en vue trois dames de la cour, sur quoi interminable causerie. On plaisante les trois dames que le moine de Wittenberg a ainsi, assure-t-on, publiquement désignées. « C'est un ignorant, » disent les uns. « C'est un moine orgueilleux, » disent les autres. Chacun commente le sermon à sa manière et fait dire au prédicateur ce qui lui plaît. La vérité était tombée au milieu d'une cour peu préparée à la recevoir. Chacun la déchira à plaisir. Mais tandis que la parole de Dieu était ainsi une occasion de chute pour plusieurs, elle était pour la grande maîtresse une pierre de relèvement. Un mois après, elle devint malade, elle embrassa avec confiance la grâce du Sauveur et elle mourut dans la joie. Quant au duc, ce ne fut peut-être pas en vain qu'il entendit rendre témoignage à la vérité. Quelle qu'ait été son opposition à la Réformation pendant sa vie, on sait qu'au moment de sa mort, il déclara n'avoir d'espérance que dans les mérites de Jésus-Christ. Il était naturel qu'Amser fît les honneurs à Luther au nom de son maître. Il l'invita à souper. Luther refusa, mais Amser insista et le contraignit à venir. Luther pensait ne se trouver qu'avec quelques amis, mais il s'aperçut bientôt qu'on lui avait tendu un piège. Un maître S.R. de Leipzig et plusieurs dominicains étaient chez le secrétaire du prince. Le maître S.R., plein d'une haute idée de lui-même et de haine contre Luther, l'aborda d'un air amical et mielleux. Mais bientôt il s'emporta et se mit à crier de toutes ses forces. Le combat s'engagea. La dispute roula, dit Luther, sur les niaiseries d'Aristote et de saint Thomas. À la fin, Luther défia le maître S.R. de définir avec toute l'érudition des thomistes ce que c'était qu'accomplir les commandements de Dieu. Le maître S.R., embarrassé, fit bonne contenance. « Payez-moi mes honoraires, » dit-il en tendant la main. « Da pastum. » On eût dit qu'il voulait commencer à donner une leçon dans les formes, prenant les convives pour ses écoliers. À cette folle réponse, ajouta le réformateur, nous nous mîmes tous à rire, et puis nous nous quittâmes. Pendant cette conversation, un dominicain avait écouté à la porte. Il eût voulu entrer et cracher au visage de Luther. Il se retint néanmoins, mais il s'en vanta plus tard. Emser, charmé de voir ses hommes se battre et de paraître lui-même garder un juste milieu, mit un grand empressement à s'excuser auprès de Luther sur la manière dont la soirée s'était passée. Celui-ci retourna à Wittenberg.